L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Transistor, le nouveau nom de Radio Évasion, je vous le dirai, je vais vous le redire pendant plusieurs mois. Bonjour et bienvenue dans L'EM. L'EM reste toujours la même émission, en direct à midi, en rediffusion à 18h. Et c'est toujours avec des partenaires fidèles comme l'association Bretagne Vivante et ces charmantes créatures qu'on apprécie pour leur côté gracile, leur couleur chatoyante. Ce sont un peu des symboles. Elles ont même leur personnage de dessin animé. Moi, personnellement, j'ai été beaucoup marquée par Evin Rude dans Bernard et Bianca de Walt Disney. J'ai nommé les libellules et leurs cousines, les demoiselles. Elles ont, depuis un mois, droit à un atlas des libellules de la Bretagne à la Vendée. 324 pages, 29 auteurs, mais aussi la mobilisation de près de 2000 observateurs entre 2000 et 2020. 165 000 données auxquelles se sont ajoutées 25 000 observations historiques, 68 espèces présentées. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, c'est Stéphane Visa, le naturaliste de Bretagne Vivante qui est à la fois spécialisé des insectes et des amphibiens. Vous le connaissez bien. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Donc aujourd'hui c'est insectes, ce sont bien des insectes, hein, les libellules et les demoiselles.
Ce sont des insectes, oui.
Alors on dit toujours libellules et demoiselles, il y a une petite différence visible à l'œil nu.
Oui, au sens large, libellule fonctionne pour tout le groupe, quoi. C'est un ordre, les odonates.
Voilà, odonates, parce qu'elles ont des grosses dents, c'est ça ?
Ouais, mâchoire dentée, ça veut dire. Mais ça fait référence aux mandibules des adultes, et des larves aussi d'ailleurs. En tout cas, ces odonates sont réparties en deux sous-groupes. Donc d'un côté, on a les anisoptères, donc eux, c'est ce qui correspond aux vraies libellules en gros. Donc c'est plutôt les gros odonates qui ont des ailes ouvertes au repos et puis une
perpendiculaire au corps, quoi, en fait.
Oui, c'est ouais. Ça. Elle, et une tête avec des gros yeux. Et donc là-dedans, on a les échnes, les anax, les libellules, les vraies libellules. Et d'un autre côté, on a les zygoptères. Donc ça, ce sont les demoiselles qui ont un corps plus grêle, comme tu l'as dit, et puis des ailes fermées au repos, et puis une tête avec des yeux qui sont... Enfin, une tête élargie avec des yeux de chaque côté, des yeux qui ne se touchent pas. Voilà, donc c'est un peu la...
C'est zygo comme les zygomatiques,
Oui. Alors, mais c'est bien parce que ça nous donne un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, c'est que zygo, ça commence par un Z. Le Z ferme l'alphabet et toutes les demoiselles ont les ailes fermées au repos.
Ah.
Tandis qu'anisoptère, le A ouvre l'alphabet et les libellules, les grosses libellules ont les ailes ouvertes. Donc c'est un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. En même temps, on peut s'intéresser aux libellules sans retenir le nom d'anisoptère ni celui de zygoptère.
Bien sûr, mais on aime bien apprendre des nouveaux mots, hein, dans l'EM. Alors, ces odonates ont le même cycle de vie, enfin la même biologie.
À peu près, oui. Oui, à peu près.
Alors c'est quoi ?
Elles utilisent des habitats larvaires notamment différents, puis même les adultes utilisent des habitats différents. Mais globalement, le cycle est le même. Le développement embryonnaire est complètement dépendant des milieux aquatiques. Donc les larves sont dans l'eau, voilà, dit autrement.
Elles sont dans un œuf ou...
Alors les œufs, oui, ce sont des œufs qui sont pondus soit à la volée sur les plans d'eau, soit à poser sur un substrat à l'extérieur des plantes, ou soit à l'intérieur des tiges de plantes. Ça dépend des groupes. Ça
ah
dépend
oui, quel des genre espèces. De plantes, par exemple ?
Ah bah, toutes les plantes aquatiques, en fait, dont les tiges sont immergées, ou des plantes flottantes. Voilà.
Parce que quand elles sont à l'état d'œuf, elles sont évidemment la proie facile d'un tas d'animaux.
Oui, donc c'est pour ça qu'elles sont cachées. En même temps, un œuf de libellule, c'est pas très gros, quoi. Hein. Ça fait les plus grosses espèces ont un œuf qui doit faire à peu près 1 mm de diamètre. Bon, voilà. Donc cet œuf, après, il passe à peu près une quinzaine de jours, ou voire tout un hiver, ça dépend, avant de se déclore. De là sort une pro-larve. Alors, ça ressemble à un ver, en fait, qui a pas encore les pattes de la larve. De la larve. Et la pro-larve, elle vit comme ça entre deux eaux pendant quelques secondes à quelques minutes, et puis après elle devient à quelques heures, voilà, pour les,
ah oui,
voilà,
c'est rapide.
Oui, c'est ça. Et en fait et après
là,
c'est vraiment
vulnérable.
Un stade très
ouais.
court.
Mais elle est vulnérable encore à ce niveau-là.
Ah oui, hein, oui là elle peut être vulnérable, notamment par les poissons, des choses comme ça qui les gobent. Et puis après, ben, la larve vit sur le fond de l'eau, donc là elle ressemble plus à une larve d'insecte avec ses six pattes articulées. Il y a déjà des fourreaux à l'air là qui sont apparents, et puis c'est carnivore, c'est
voilà.
très carnassier.
Là par contre ça rigole plus. Ouais.
Non,
ouais,
ça c'est... rigole plus, c'est fini là.
Ouais. Là c'est le
sortie.
Prédateur.
Ouais. C'est oui, et elle a même ce qu'on appelle un masque, qui est une particularité qui est propre aux libellules. C'est-à-dire que c'est un bras articulé en fait qui prend la mâchoire inférieure et qui peut se projeter sur les proies. Et c'est ce qui, paraît-il, a inspiré Alien, pas moins.
Voilà. Ah oui.
Ben oui. Uh-huh. Voilà. Donc c'est vraiment une bête vorace qui peut passer, qui peut s'attaquer à ses propres congénères aussi. D'ailleurs, hein, c'est pas psychologie, ça peut s'améliorer. Et puis, elle va passer un mois et demi à quelques années dans l'eau.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui détermine cette durée ?
C'est essentiellement deux facteurs. C'est la température de l'eau et la disponibilité en proie. Voilà.
Ah oui, donc plus il y a de proie, plus elle va rester.
Non, c'est le contraire.
Ah,
c'est
okay.
Plus il
bon.
Y a de proie ouais. et plus la température de l'eau est élevée, plus le métabolisme va être actif, plus elle va pouvoir grandir plus vite et moins elle va passer de temps dans l'eau. Donc en général, les espèces des eaux courantes passent plus de temps dans l'eau que les espèces d'eau stagnante.
Ah oui, parce qu'il y a...
Parce que les températures de l'eau, avec l'oxygénation en permanence, est en général plus froide, quoi.
Ah oui, parce que c'est pas forcément dans des mares, on s'imagine.
Non, il y a des espèces d'eau courante.
Ah oui, dans des rivières.
Dans des rivières, plus ou moins, avec un courant important. Et puis, des espèces de grands fleuves, comme la Loire ou l'Aulne, là, qui est proche d'ici. Où il y a des espèces de libellules qui colonisent ce genre d'endroit.
Enfin, c'est toujours l'eau douce, je suppose.
Alors, il y a quand même des espèces qui sont tolérantes. Alors, pas à l'eau salée, pas à l'eau de mer, mais à une eau saumâtre.
Oui.
Et dont certaines, dont une espèce même, le laisse à grand stigma, dont c'est la spécialité, et qu'on va retrouver sur les bassins, les marais littoraux salins de Vendée et de Loire-Atlantique. Plus de Vendée d'ailleurs, parce qu'en Loire-Atlantique. Alors là, pour le coup, les tempêtes qui ont fait beaucoup de mal aux Bretons ont fait aussi beaucoup de mal à ces espèces-là qui sont vraiment en bordure de côte, quoi. Et donc il y a quelques espèces spécialistes de milieux saumâtres. Voilà.
Donc, la larve a bien grandi et
oui.
elle va sortir.
Elle va au bout d'un moment, il faut qu'elle sorte. Donc quand elle sort, alors ça se passe pas en une fois. Il y a des allers-retours parce qu'il faut que le métabolisme qui passe d'un milieu aquatique à un milieu aérien s'adapte. Donc les branchies se résorbent, les poumons apparaissent, enfin les poumons, les trachées, oulala, bêtise, il n'y a pas de poumons. Mais en tout cas, il n'y a pas de branchies chez l'adulte. Et donc voilà, et donc tout ça met un peu de temps à se mettre en place. Et après, au bout d'un moment, la larve se grimpe le long d'une tige, se sèche. Et la métamorphose en fait commence à avoir lieu à l'intérieur. Et alors si on a la chance d'assister à ce spectacle-là, je conseille aux gens de rester parce que c'est plutôt original et très sympa à regarder. Ça peut durer 2 heures dans de bonnes conditions
ouais,
et puis
même.
Sur une journée quand le temps est plus incertain. Et en fait la larve se fendille au niveau du thorax. Et l'adulte à l'intérieur, le jeune adulte, sort en se contorsionnant et se sèche, lui, pendant une petite période, il ne peut pas voler.
On ne voit pas ça dans Micropolis, le film, le documentaire ?
Si, il serait certainement. Ouais, très certainement. Puis après, ben, l'adulte, là, il vole difficilement. Là aussi, il est très vulnérable. Et donc ensuite, il va regagner des prairies. Ou des landes, ou des milieux où il y a des fleurs, des milieux où il n'y a pas trop de vent, des milieux qui sont ensoleillés. et ça va et il va rentrer dans une phase qu'on appelle la maturation, où il peut passer plusieurs jours, à plusieurs mois aussi là, loin de l'eau même quelquefois, pour prendre ses couleurs d'imago, c'est-à-dire d'adulte parfait, et puis devenir tout à fait capable de se reproduire. Et voilà. Et une fois qu'il est devenu un adulte parfait, un imago, il retourne sur ses sites de reproduction.
Et les libellules adultes sont toujours carnivores ou elles changent de régime alimentaire ?
Elles sont carnivores également. Alors elles s'attaquent à des proies variables en taille, du puceron au papillon, en fonction de la taille même de l'individu. Et puis elles s'attaquent aussi à d'autres libellules, et, y compris à des congénères aussi, ça ne change pas.
Et elles se mettent à bien voler aussi une fois qu'elles sont...
Alors du coup elles se mettent à bien voler, bien sûr. Alors les demoiselles de façon générale restent assez proches des mares, des cours d'eau où elles se reproduisent. Par contre les libellules, elles, peuvent aller plus loin et planer et puis entamer de véritables migrations. Quoi.
Ah oui, et comment ça, de Douaou par exemple ?
Ah ben Douaou, du sud de la France jusqu'au nord, il y a des espèces migratrices.
Ah oui, donc c'est saisonnier en fait.
Oui.
C'est pas parce
qu'elles
n'ont plus rien à manger puis qu'elles changent
oui,
de climat.
Oui, alors après il y a des phases de dispersion chez certaines espèces où elles se déplacent sur plusieurs... centaines de kilomètres, dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres. Puis il y a des espèces qui sont connues vraiment pour un comportement migratoire.
Qui reviennent pondre à l'endroit où elles sont.
Oui, alors après, ça peut se faire sur plusieurs générations et un peu comme chez les papillons. Mais, ou bien il y a des années où on assiste à ce qu'on appelle des invasions. Alors en biologie, ça veut dire des arrivées massives ponctuelles.
Comme les criquets.
Chez certaines espèces. Et puis il y a des espèces qui se cantonnent vraiment au bord de la mare où elles sont nées, quoi.
Et leur couleur si jolie, enfin parce que c'est vrai que le bleu c'est vraiment magnifique souvent, enfin bleu vert, on sait pourquoi ces couleurs
là. Alors là moi je sais pas.
Se confondre avec la mare.
Ouais non je sais pas, j'ai pas, là je suis un peu sec là-dessus.
Bon, pour une libellule, c'est un peu... C'est une question qui me venait là, comme ça,
non,
parce que
c'est vrai
qu'on... Non, je sais pas trop. Alors, donc leur milieu de vie, il faut quand même qu'il y ait de l'eau pas loin, c'est
oui.
Ça enfin, en gros, c'est... Et quelle est la... Bon là, c'est pas la saison pour les voir, hein, clairement. Hein.
Non.
Il fait trop froid.
Oui, il y a aucune espèce... Enfin si, il y a une espèce... qui hivernent à l'état adulte, où il y a des imagos qui passent l'hiver posés dans la... Alors, ils ne sont pas actifs, hein, ils sont posés dans les végétations un peu de bordure de mare, de marais ou d'étang. Et elles se reproduisent au printemps suivant et elles meurent, en fait. Voilà. Donc, mais sinon, la majorité des espèces passent l'hiver au stade larvaire ou au stade œuf.
Ouais.
Pour certaines d'entre elles.
Et elles pondent, donc il faut qu'elles pondent absolument, une fois adultes, il faut qu'elles pondent absolument avant l'hiver, hein, enfin, c'est ça
Oui, c'est ça.
Avant
c'est...
de mourir.
En gros, oui. Ah oui, l'adulte, il sert qu'à la reproduction, et là, certainement que les couleurs aussi entrent en jeu.
Oui.
Voilà. Et du coup, la seule fonction de l'adulte, c'est ça, c'est se nourrir pour pouvoir se reproduire. Et voilà,
c'est quand la période
courte, quoi. Ouais. Parce que, alors après, il y a des espèces précoces, il y a des espèces tardives, il y a des espèces qui vont vivre un peu plus longtemps que d'autres. Mais globalement, les premières, on les voit au mois de la deuxième quinzaine d'avril, début mai, et puis ça. Les dernières, la fin octobre, début novembre, quoi. Et puis après, il n'y a plus personne, quoi.
Ouais.
Voilà. Sauf l'espèce en question qui passe l'hiver cachée dans la végétation.
Et pour la reproduction, est-ce qu'il y a des anecdotes, entre guillemets ? Est-ce qu'elle copule en vol ? Enfin, c'est quoi ? Il y a des particularités ou pas spécialement ?
Bah, la particularité évidente, c'est le fameux cœur copulatoire.
Ah, c'est beau, ça.
Ouais, c'est joli, hein. Mais ça, c'est vraiment une singularité de ce groupe d'insectes. C'est-à-dire que le mâle, il a une particularité qu'il est le seul à partager. Enfin, les mâles de libellules, je crois pas qu'il y ait d'autres cas chez d'autres groupes d'espèces. C'est-à-dire que l'organe reproducteur, en fait, il est pas au même endroit que le port génital, quoi. C'est-à-dire que l'endroit où ils fabriquent les spermatozoïdes n'est pas situé au même endroit que le zizi, pour dire les choses très simplement. Okay. Donc en fait, il est confronté à une double gymnastique, c'est-à-dire qu'il doit, la première fois, il doit amener son port génital à son organe reproducteur.
Ah oui, il n'y a pas de circulation entre les deux, interne.
Donc
se plier.
Parce que le port génital est au bout de l'abdomen et l'organe reproducteur est au début de l'abdomen, donc il est obligé de plier son abdomen pour faire coïncider le port génital et l'organe reproducteur. Et donc ça, c'est une première gymnastique. Là, il le fait tout seul, en fait. Ouais. Voilà. Et ensuite, quand il y a l'accouplement, l'organe reproducteur de la femelle, elle est aussi au bout de l'abdomen. Et lui, le sien, il est au début de l'abdomen. Donc il est obligé d'attraper la femelle derrière la tête. J'allais dire le cou, mais il n'y a pas de cou, derrière la tête.
Et de la plier aussi.
Voilà, ah. Et la femelle, là, elle plie son abdomen et elle ramène son abdomen sous le deuxième segment de l'adulte, du mâle, pour récupérer le sperme. Et ce qui fait que les deux ensemble forment un cœur, qu'on appelle le cœur copulatoire. Et donc, ils peuvent voler comme ça. Des fois, on les voit poser. Ça arrive. Voilà, donc ça c'est quand même un singularisme
un signal
étonnant et spectaculaire, ouais.
Comment vont-elles ces libellules dans l'ensemble et puis en Bretagne et en Vendée en particulier, puisque l'atlas de Bretagne vivante, c'est la Bretagne et la Vendée.
Oui, c'est ça. Alors, c'est un bouquin qui vient juste de paraître, qui a été publié aux éditions Locus Solus et qui a été, tu l'as dit en début d'émission, ça a mis en branle tout un tas de monde pour arriver à ce résultat. C'est des résultats de au moins de 20 années de travail, si ce n'est plus. Donc c'est une somme d'informations assez complète, avec des informations inédites. Et puis, un des grands intérêts, c'est qu'on a regroupé toute la connaissance au même endroit et on peut après tirer des analyses sur l'état de santé global des libellules. Alors j'ai regardé un peu sur le territoire de la Bretagne à la Vendée. On a écrit une petite monographie sur 68 espèces. Et sur ces 60.
Ils ont chacune une fiche, quoi.
Oui.
Une photo et
oui, voilà. Ouais. Un texte avec des photos et une monographie qui présente un peu l'historique de l'espèce sur le territoire d'étude, la biologie, son écologie, là où on la trouve, la période où on la trouve, etc., etc., etc. Et puis aussi une analyse de l'évolution de ces populations.
Entre 2000 et 2020
Sur la période moderne, entre 2000 et 2020, puis on utilise aussi les rares données avant 2000. Voilà. Et du coup, sur ces espèces, sur ces 68 espèces, il y en a 9 qui sont accidentelles c'est des espèces, par exemple, migratrices ou qui font des invasions, comme on a dit, ou qui ont été connues il y a très longtemps et qui ont disparu. Enfin bon, voilà, qu'on a mis un peu de côté. Donc, on a travaillé sur les 59 autres. Et sur les 59 autres, on considère qu'il y en a 49 qui sont communes, alors communes au sens large, c'est-à-dire il y a des peu communes, des très communes, il y a un peu de tout, et puis 10 par contre qui sont beaucoup plus rares, quoi. C'est en termes de répartition sur le. Et après on a regardé un petit peu les tendances, parce qu'une espèce peut être rare, mais si elle est rare au même endroit depuis très longtemps, on peut se dire qu'il n'y a pas trop de soucis. Enfin,
il y a un équilibre en tout cas. Oui.
Voilà. Oui. Et quand on regarde les tendances, on se rend compte qu'il y a 14 espèces qui progressent, qui sont en extension. Quand même, et il y en a 8 qui, elles, par contre, sont en régression. Voilà. Et le reste est en stable, quoi. Et après, quand on regarde un peu plus près ces espèces qui progressent et qui régressent, on se rend compte que les espèces qui progressent sont quand même des espèces qui sont peu exigeantes en termes d'habitat, qu'on peut trouver dans plusieurs types de points d'eau ou de voilà, et que c'est des espèces qui en général sont plutôt favorisées par les changements climatiques en cours et notamment le réchauffement, donc plutôt des espèces méridionales qui remontent pour faire les choses de façon un peu courte, quoi. Et puis que c'est des espèces qui sont favorisées par des créations de plans d'eau ou de bassins d'eau pluviale de ce type de points d'eau qui a tendance à fleurir ces derniers temps. Voilà. Par contre, quand on regarde les espèces qui régressent, là, on se rend compte qu'elles sont plus exigeantes. En général, elles sont connectées à des habitats qui sont qui sont menacées ou qui eux-mêmes régressent. Voilà, donc c'est quand même plus compliqué pour elles.
Très spécifique, alors des habitats très spécifiques, non ?
Oui, voilà, ça peut être des mares acides liées à des milieux tourbeux.
Ah ouais.
Ça peut être des marais littoraux aussi, voilà, des mares arrière du nerf. Ça peut être aussi des eaux courantes, mais un peu sauvages, entre guillemets. Donc là, on se rend compte que les ruisseaux, que les rivières, que les fleuves, sont de plus en plus aménagés, canalisés, etc. Et du coup,
Oui, ça court plus assez pour elles, en fait.
Oui,
c'est pas
et
forcément
puis,
la pollution.
Et puis il y a le milieu aquatique, mais il y a aussi le milieu terrestre, donc les berges, etc.
Ça.
Enfin, tout
ça
est très aménagé, donc ça les embête. Les quelques espèces protégées sont des espèces de rivières et donc d'eau courante.
Il y en a quand même qui sont protégées, parce que.
Oui.
Donc là, comme ça, on se dit, finalement, ça va pas si mal pour les libellules, en tout cas en Bretagne.
Comme ça, on peut se dire ça. Après, il y a des espèces où on n'a pas réussi trop à évaluer non plus les tendances. Mais toujours est-il que sur ces 8 espèces en régression, et puis il y a vraiment une dizaine d'espèces où il faudrait vraiment travailler dessus et proposer des choses pour que leur population soit pérenne, quoi. Voilà. Ceci étant dit, 68 espèces, c'est un cortège qui est relativement faible par rapport à d'autres régions aussi.
On pourrait croire pourtant, avec toute l'eau qu'on a en Bretagne, on pourrait croire qu'on est riche en libellules.
Et oui, mais il y a un autre facteur limitant qui est le climat. Et là, on
est trop froid.
Oui, c'est ça. Il y a plein d'espèces qu'on n'a pas pour des raisons climatiques, en fait. Puis on le voit bien déjà, parce qu'on peut faire un gradient entre le sud-est et le nord-ouest de la région, où on se rend compte que plus on va vers le nord-ouest, donc plus vers ici, quoi, vers la pointe du Finistère, moins on a d'espèces.
Et ça va peut-être changer alors avec le climat ?
Changer dans les grandes profondeurs, j'y crois pas trop, mais en tout cas, que la Bretagne devienne une espèce de région refuge pour des espèces à distribution plutôt nordique, ça c'est pas impossible. Le fleuron des libellules dans le Finistère, c'est le Saint-Pétrum noir. C'est une espèce qu'on trouve uniquement dans les monts d'Arrée et au niveau des tourbières et des anciennes fosses d'extraction des gouilles de la tourbière du Vénèque.
C'est quoi des gouilles ?
C'est des anciennes fosses d'extraction, quoi, des trous d'eau en milieu tourbeux acide.
Quand on récoltait la tourbe.
Ouais, voilà. Et donc c'est une espèce qui est c'est le seul endroit où la reproduction est formelle sur toute l'aire de la Bretagne à la Vendée. Et vraiment, c'est une espèce qui est liée à ces milieux froids. Donc, dans le contexte actuel, on peut se poser des questions sur la pérennité de ces populations. Mais c'est pas impossible non plus que la Bretagne, où le changement climatique va peut-être se faire moins sentir là qu'ailleurs, en tout cas en termes de hausse de température, elle pourrait survivre alors qu'elle pourrait disparaître dans d'autres endroits de la France. C'est pas impossible non plus.
Il faudra réactualiser l'atlas dans quelques années.
Ah oui, mais ça sert à ça aussi.
Oui.
Hein.
Et donc cet atlas, il est quand même destiné à des spécialistes, des gens vraiment passionnés, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a notamment une clé d'identification.
Oui, il y a une clé d'identification. Quand on avait sorti l'atlas des papillons il y a 6 ans maintenant, on n'avait pas mis de clé d'identification et on nous en avait fait le reproche, gentiment, mais on nous l'avait fait, en nous disant, mais moi je prends des papillons sur le photo, j'aurais bien aimé qu'il y ait une clé pour pouvoir identifier les espèces quand je rentre à la maison. Là, on l'a fait. Donc, on a créé une clé photographique où pour chaque espèce, on a mis le critère qu'il fallait regarder pour pouvoir déterminer l'espèce, quoi. Voilà. Donc,
c'est faisable.
Oui. Alors, encore faut-il, quand on fait ça à la maison sur après photo, prendre le bon critère sur la photo. Donc, ça, faut peut-être regarder la clé avant pour savoir.
Il faut la prendre sous toutes les coutures.
Oui, en général, c'est ça. Un plan, ça suffit rarement. Vaut mieux ne pas hésiter à prendre des détails et à faire plusieurs plans du même individu, dessus, dessous, côté. Tête, bout de l'abdomen, enfin les pattes aussi, parce qu'il y a des critères sur les pattes, les couleurs des pattes, etc. Enfin bon, voilà, donc on a fait ce travail-là. Voilà, donc on part de l'ensemble des libellules, et puis à chaque fois, on est confronté à un choix, et en fonction du choix qu'il prend, on progresse dans la clé, et au bout, normalement, on doit arriver à l'espèce.
Ah oui, donc il y a la clé d'identification, il y a les 68 portraits, puis quoi, oui. Des cartes,
qu'est-ce qu'il y a? Ah ben oui, bah c'est un atlas, donc il y a plein de cartes. Donc pour chaque espèce, il y a la carte de répartition, et puis il y a aussi des parties générales, au début, qui parlent des cortèges de libellules. Donc on présente le territoire d'étude, en fait, de la Bretagne à la Vendée. Parce que c'est Bretagne vivante, mais c'est aussi l'AER, l'Atlas entomologique régional, qui est une association dont le territoire est historique est la Vendée et la Loire-Atlantique. Donc c'est avec eux qu'on a travaillé ce bouquin.
Logique de faire les deux, de réunir les deux territoires.
Oui, parce que pour nous, c'est bah oui, parce qu'en fait, il y avait c'était le massif armoricain va jusqu'au sud de la Vendée, donc c'était pas trop
C'était logique.
Géographiquement, c'était assez logique. Et puis nous, bah, on est Bretagne vivante, on est aussi présent en Loire-Atlantique, c'est un cœur d'avoir la Loire-Atlantique. Puis comme on travaille avec l'AER qui avait la Vendée, comme on faisait le travail, autant faire le travail avec la Vendée. Donc c'est logique, et en termes même de zone zoogéographique, c'est pas du tout déconnant, quoi. C'est vraiment bien comme territoire. Et puis donc on parle un peu des habitats, des libellules, de tout ce que je racontais, mais de façon détaillée. Voilà. Après, il y a une autre grande partie sur la découverte des libellules. Donc là, on va évoquer l'histoire des noms des libellules, d'où ça vient, comment on a nommé, à partir de quand et par qui ont été nommés les libellules. Une partie qui est plus sur l'écologie, les grands cycles, ce que j'ai un peu évoqué là. On a traduit aussi pour chaque libellule, on leur a donné, c'est pas moi, hein, c'est des spécialistes et des experts qui leur ont donné un nom en breton. On explique aussi dans quelle part elles ont dans les traditions bretonnes, ces libellules. Et voilà. En plus, on revient sur la méthodologie de l'Atlas, comment on a fait, comment on a procédé les 20 ans, et puis sur une grosse partie qui est dédiée aux résultats. En plus des monographies. Et c'est un beau livre. Il y a aussi 60 photographes qui ont participé. Donc il y a des super photos. Chaque espèce est photographiée.
Bon, bah à s'offrir à Noël. Alors c'est paru chez Locus Solus.
35 euros.
Merci beaucoup Stéphane. Et à bientôt. On retrouvera Bretagne Vivante en décembre.